On va parler aujourd'hui d'un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Quel scoop, hein ? Et dans une précédente prédication, je vous ai parlé du thème que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Romains 8, 38-39. Où il est écrit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça fait partie aussi, et j'aime bien suivre, par rapport aux lectures qu'on fait ensemble, pour ceux qui participent. Donc il y a ce plan de lecture du Nouveau Testament. On était dans Romains 8 il y a déjà quelques temps et ça passe vite, hein, chaque jour, sauf le samedi dimanche, il y a un nouveau chapitre. J'ai parlé de quatre clés pour résister à l'épreuve et rester dans cette victoire telle que décrite dans Romains 8, c'est marcher avec Dieu chaque jour, mémoriser et méditer aussi la parole de Dieu, prier sans relâche, pas juste lorsqu'on est dans une église, et aussi pratiquer la présence du Christ, là aussi, pas seulement lorsqu'on est dans une église. Et en pensant à la prédication d'aujourd'hui, j'ai pensé, ben, comme je viens de le dire, à nos lectures du Nouveau Testament. Si jamais vous voulez un de ces petits plans de lecture, il y a aussi un petit commentaire, petit résumé, avec une petite interpellation, et pour nous aujourd'hui, qui est sur Internet, c'est un Google Docs que vous pouvez suivre aussi chaque jour, qui aide aussi à se faire une idée. Évidemment, je vous invite à réfléchir par vous-même, mais ça peut être un petit complément. Donc vous trouvez le lien sur notre site Internet, si jamais, avec chaque livre. Pour l'instant, on est dans les Corinthiens. Et j'ai pensé plus particulièrement depuis le 3 juillet, avec Romains 12, et suivant. Et c'est vrai, l'apôtre Paul, après avoir magnifiquement exposé la grâce de Dieu, la justification par la foi, dans les 11 premiers chapitres de l'épître aux Romains, il va changer brusquement de ton à partir du chapitre 12 et il nous dit, en quelque sorte, si vous croyez vraiment ce que je viens de vous expliquer, alors voici comment ça doit se transformer dans votre vie concrètement et surtout dans vos relations avec les autres. Tous ces texte de Romains 12 à la fin, Romains 12 à 16, eh bien, nous parle des relations. Et les chapitres 12 à 16 des Romains ne sont pas juste une simple liste de conseils moraux. Je ne sais pas si vous avez lu ces textes, mais en tout cas, ce n'est pas juste une liste de bons conseils et puis on prend pas ce qui nous plaît, notre convenance. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous aide pour notre vie personnelle à aimer sincèrement. Pas juste ceux qui sont aimables, à pardonner comme Christ. Là, ça se corse un petit peu. Je ne parle pas des vacances de l'autre côté de la mer, mais à pardonner donc comme Christ, à vivre dans la paix, à honorer aussi les autres personnes, à supporter les différences. Il n'y a qu'à regarder dans la salle, on est tous et toutes différents. On a des cultures différentes, à bâtir aussi dans l'unité. Et ces chapitres posent une question fondamentale à nous les chrétiens, à chaque chrétien, est-ce que notre relation avec Dieu est visible dans notre manière de traiter les autres ? Est-ce que c'est visible ? Est-ce que ça se voit dans notre façon de nous comporter avec les autres ? Et comme je vais présider la Sainte Cène aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler de ce fameux texte de 1 Corinthiens 11, qu'on méditera le 24 juillet. Donc vous aurez un peu d'avance cette fois sur la lecture. Donc jeudi 24 juillet, on va lire 1 Corinthiens 11. Et on vit dans un monde où les relations humaines sont fragiles, souvent tendues, parfois brisées. Il y a de la rancune, il y a de l'individualisme, il y a de l'indifférence, il y a de la division qui peut s'infiltrer jusque dans nos familles, nos communautés, nos églises. Il n'y a qu'à voir en politique, ça, même en Suisse qui est un pays au long fleuve tranquille, eh bien, même là, ils commencent à s'insulter. On voit même une footballeuse, là, je ne sais pas si vous avez regardé le foot, peu importe, mais j'ai juste lu que Swiss Football a décidé de mettre un garde du corps pour une footballeuse. Voilà, il y a des trucs qui... On se dit en Suisse, pas en Suisse, enfin, voilà. Et le message de l'Évangile n'est pas seulement destiné à nous sauver individuellement, mais il a une puissance de transformation pour nos relations. Et aujourd'hui, en parcourant le texte d'1 Corinthiens 11, on va voir que le véritable culte que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement ce qu'on fait dans l'Église, mais la manière dont on vit nos relations, dont on vit les uns les autres avec amour, avec pardon, avec respect. C'est facile, hein, avec nos amis, mais aussi dans l'Église. Et on va aborder différentes choses ce matin. C'est ce que je vous ai dit qu'on voyait dans Romains 12 à 16, d'aimer sincèrement, de pardonner comme Christ, de vivre dans la paix, d'honorer les autres, de supporter les différences et de bâtir dans l'unité. Ces fameux trois points qu'on va voir ce matin, c'est la Sainte Cène. En lisant 1 Corinthiens 11, ça va s'éclairer. Paul va leur dire cette Sainte Cène, c'est devenu une table brisée par l'égoïsme. On parle de la table de la Sainte Cène. Il y a comme de l'égoïsme, chacun pour soi. La Sainte Cène, au contraire, Paul va poursuivre en disant, mais c'est un appel à l'unité dans l'amour. Et finalement, on verra encore ce matin que la Sainte Cène nous pousse à soigner nos relations. Et le titre de mon message, c'est « Des relations renouvelées en Jésus-Christ ». Et le texte qu'on lira, c'est 1 Corinthiens 11, 17 à 36. Lisons déjà 1 Corinthiens 11, 17 à 22, qui nous parle de ce premier point, une table brisée par l'égoïsme. L'apôtre Paul va dire, en faisant la remarque suivante, « Je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Vous aimeriez recevoir une lettre comme ça ? Juste pour situer dans le contexte, c'était des lettres. Hein, on parle de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il dit, je ne vous félicite pas parce qu'en fait, vous vous réunissez, mais franchement, à quoi bon, quoi ? Parce que c'est grave. Verset 18. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin qu'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Tiens donc. Tiens, c'est comme un révélateur. Un révélateur d'un comportement. Verset 20. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dire ? Faut-il vous féliciter ? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Waouh ! Ça, c'est une remontée de chaussettes. Ouais, il remet les pendules à l'heure. Hein ? Donc, après avoir brièvement félicité les Corinthiens, ça, si vous lisez 1 Corinthiens 11, verset 2, il les félicite pour leur attachement aux enseignements que Paul avait précédemment transmis. Et là, il dit, mais en faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter. Donc, il les félicite pour une première partie, mais après, c'est un petit peu pour les encourager. Hein. D'abord, on dit quelque chose de positif, après, on remonte les chaussettes, puis après, un encouragement. Donc là, Paul avait transmis des enseignements, mais Paul change très vite de ton. Il doit maintenant les reprendre sévèrement, parce qu'il y a une chose terrible qui se passe au sein de cette Église, il y a des divisions qui règne. Et ce n'est pas nouveau. Dans le premier chapitre de cette même lettre, Paul, premier chapitre, 1 Corinthiens 1, Paul évoquait déjà des querelles où certains disaient, mais moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ, ça fait encore mieux. Chacun avait son champion spirituel et au lieu de bâtir l'unité du corps, il creusait des fossés les uns les autres. C'est comme si on dirait, hein, moi je suis de Michael, moi je suis de Philippe, moi je suis de, je ne sais pas, un tel, Simon. Puis certains, les XXL spirituels, moi je suis de Jésus-Christ. Mais ce n'était pas la seule fracture. D'autres tensions encore plus graves opposaient les riches aux pauvres. On voit dans ce texte qui est affiché là aussi. les influents aux modestes, les visibles aux oubliés. L'Église, au lieu de refléter le ciel, reproduisait simplement les injustices du monde. Et Paul, avec tristesse, dit, dans telles conditions, finalement, mieux vaut rester chez vous, quoi. Mieux vaut pas vous réunir. Imaginez, au lieu de dire votre culte ne me plaît pas, Paul dit votre culte fait plus de mal que de bien. J'espère pas que s'il était là, il dirait la même chose au mieux de nous, hein. Frères et sœurs, une église peut avoir des chants puissants, une prédication inspirée, un déroulement bien construit, ça roule, on se dit « waouh, dans cette église, c'est magnifique ». Mais si l'amour est absent, si le pardon est bloqué, si le respect est rompu, alors Dieu lui-même se détourne de l'assemblée. Verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Moi, je n'aimerais pas recevoir une lettre comme ça. Et à Corinthe, la Sainte Seine, moment de communion, est devenue comme un lieu de division. Ils se retrouvaient et après un repas, ils prenaient la Sainte Seine. Mais ils avaient l'habitude de manger ensemble. Ça s'appelle des agapes, des agapés. Un véritable moment de partage, d'amour. Et après ce repas, eh bien, ils prenaient ensemble la Sainte Seine en souvenir du sacrifice de Jésus. Mais rapidement, il y a des abus qui sont apparus. L'esprit d'amour s'est perdu. Très vite, hein. Il y a les disciples qui sont encore juste pas morts, que déjà ils sont déjà mal en point. Les riches apportaient de la nourriture en abondance, mais ils ne la partageaient pas. Les pauvres, eux, repartaient le ventre vide et humiliés. C'est ce qu'on lit dans ce texte. Certains allaient même jusqu'à s'enivrer que d'autres aussi avaient faim. Vraiment une grande disparité. Et comme la Sainte Seine avait lieu après ce repas, certains prenaient le pain et le vin sans aucun respect, même parfois sous l'effet, l'influence de l'alcool. Et Paul dénonce cette situation avec fermeté. Ce qui devait être un moment d'unité était devenu un spectacle de division. Ils prenaient quelque chose, mais sans plus aucune signification véritable par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire. Et le repas de l'amour ne reflétait plus du tout Jésus-Christ. Paul n'est pas juste déçu, mais je crois qu'on ressent vraiment dans ce texte son indignation. Il est indigné. Il dit clairement que ce comportement annule la signification même de la Sainte Seine. Et quand nos relations sont marquées par l'indifférence, l'orgueil, l'exclusion, eh bien on offense le corps du Christ. Une église peut prêcher la vérité et pourtant pas vivre l'amour du tout. On lira aussi le 28 juillet, on lira 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 nous dit « On peut tout avoir, même des prophéties, parler en langue, machin, truc, tout. Mais si on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale qui fait du bruit. C'est vide. La cymbale, pour qu'elle résonne, elle doit être vide, à part si elle est électronique, parce qu'il y a des petits câbles dedans, mais ça, c'est autre chose. Paul nous renvoie à Romains 12, 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » J'aime bien ce thème « rivaliser ». Des fois, on parle de rivalité, mais là, c'est « rivaliser d'estime réciproque ». C'est second 21 qui traduit ainsi. Et la question à se poser, est-ce que je contribue à l'unité ou à la division dans mon Église ? À chacun de répondre. On ne peut tout simplement pas se permettre de rester en conflit pendant des mois sans jamais chercher la réconciliation, selon ce texte d'1 Corinthiens 11. Éphésiens 4, 26, 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère », ce n'est pas dit « Ouh, c'est mal de se mettre en colère ». Ça peut arriver, des fois, on a des... Ben, on reste humain, quoi. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Là encore, on ne doit pas balancer n'importe quoi à n'importe qui. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Encore, réglez rapidement. Ok, tu t'es mis en pétard. Bah déjà, ne pêche pas, ne dis pas n'importe quoi, des grossièretés ou des insultes. Mais si tu t'es mis en colère, ne pêche pas et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et ne laisse pas de place au diable. Waouh. Je ne sais pas si vous imaginez dans des familles, dans des couples, déjà les changements qu'il y a ou qu'il y aurait si on applique cette parole-là. Si on se dit, mais je ne veux pas me coucher sur ma colère, je veux régler les choses. Et ce qui se passe dans les familles va se reproduire par extension aussi dans la société, dans le respect. Le respect pour parler aux autres, le respect pour se conduire par rapport aux autres, sur une place de travail aussi. Même, je pense, dans des milieux où tous ne sont pas croyants, on est appelé, nous, à vivre comme des croyants. Pas s'attendre à ce que les non-croyants se comportent comme des gens justes, mais nous, si on se réclame du Christ, on est appelé à vivre ceci. Alors voilà, un premier petit point, mais costaud. La Sainte Cène, selon 1 Corinthiens 11, 17 à 22, il y a plein d'égoïsme, elle peut être brisée par cet égoïsme. Deuxième chose, la Sainte Cène, c'est un appel à l'unité dans l'amour. Là, c'est un petit peu mieux. 1 Corinthiens 11, 23 à 26, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est fort comme texte. On prendra tout à l'heure la Sainte Cène. On est invité à cette table, mais Paul va dire, « Mais j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, arrêté, il a pris du pain. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Paul revient au fondement. Le dernier pas de Jésus, la Cène, ce n'est pas une tradition de l'Église. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça par tradition, parce que ça se fait, donc on est obligé de prendre la Sainte Cène. Non, ce n'est pas une tradition. C'est le cœur de l'Évangile. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On revient à la croix, à l'œuvre de la croix, ce que Jésus a accompli, à ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Il proclame l'amour, le sacrifice du Christ qui a donné sa vie pour former un seul corps. Dans Romains chapitre 12 et 13, on trouve ces versets 4 et 5 du chapitre 12. Paul dit en effet, « De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Prendre la Cène, c'est donc proclamer notre unité. On est tous membres les uns des autres. Est-ce qu'on peut prendre la Sainte Cène s'il nous manque un bras? Bien sûr, physiquement. Mais si on est dans cette désunion, Paul va dire dans ce texte de Romains 12 qu'on a lu il y a quelques semaines en arrière, on est tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. De même qu'il y a plusieurs membres dans un seul corps, tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et c'est ça aussi, prendre la Cène, c'est donc proclamer notre unité en Christ. Imaginez une famille réunie autour d'un repas mais où personne ne se parle. Bon, ça devient parfois aussi l'habitude avec les téléphones portables, où chacun méprise les autres, où l'ambiance est glaciale, ce repas, c'est une honte, ce n'est pas une fête. Tu peux manger tout seul chez toi ou ailleurs, ou dans la nature, mais il n'y a pas besoin d'être ensemble. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Prendre la Cène sans amour pour son prochain, c'est une insulte à l'œuvre de la croix. C'est une insulte. 1 Corinthiens 13, de nouveau le 28 juillet. Il faudra vraiment lire ce texte ou relire ce texte. Déjà, vous préparez aussi. C'est cette importance. Donc, la Sainte Cène, comme je viens de vous le dire, c'est un appel à l'unité. La Sainte Cène, pour terminer, nous pousse à soigner nos relations. 1 Corinthiens 11, 27 à 34, on trouve ça. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Waouh ! Là, Paul, il dit, mais ce n'est pas une tradition que vous faites. Là, il rappelle les Corinthiens, comment ils mangeaient, ils se goinfraient, certains étaient ivres, certains n'étaient pas dans un joli état. Et il dit, celui qui mange et boit la coupe du Seigneur à mort sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. En d'autres termes, Paul il dit, mais tu tombes sous le jugement de Dieu. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il y a un examen de conscience qui doit être fait en prenant part à la Sainte Cène. Ce n'est pas à moi de dire, toi tu es digne, toi tu n'es pas digne, toi tu peux pas. Il n'y a que Dieu qui juge dans un cœur. Il n'y a que Dieu qui regarde au plus profond du cœur. Vous savez, on peut faire un grand sourire, puis à l'intérieur, penser tout autre chose. Que chacun donc s'examine lui-même. On est très fort pour examiner les autres, mais là, c'est un petit peu la paille et la poutre. Enfin, on s'examine chacun soi-même. Et ce n'est pas dit « et que tu prennes pas », c'est dit « et que tu prennes », parce que le but, c'est de changer. Que chacun s'examine soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Vous avez déjà lu ce texte ? Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce n'est pas dit si nous n'examinions pas notre frère ou notre sœur, c'est dit si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns aux autres. De nouveau, on est appelé à s'attendre les uns aux autres. Il y a cette unité, cette communion, cette communication. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Je vous ai dit, il y avait tout un repas que les Corinthiens faisaient. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Donc Paul répondait à des questions par rapport à la scène. Versets 28 et 29, 1 Corinthiens 11, « Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » La Sainte Cène qu'on prendra tout à l'heure, ce n'est pas un porte-bonheur. Ce n'est pas un porte-bonheur. Ce n'est pas parce que vous prenez la Sainte Cène que vous allez être mieux. Au contraire, si vous le prenez, ce que Paul dit dans ce texte, si vous prenez la Sainte Cène de façon juste mystique, magique ou miraculeuse ou juste par habitude, sans discerner ce que vous faites, vous prenez un jugement contre vous-même. C'est dur, hein ? Juste recentrer, remettre l'église au milieu du village ou la Sainte Cène au milieu de l'église, je ne sais pas, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire des fois par tradition ou comme ça, parce qu'on croit que ça va nous attirer quelque chose de bien. Non, au contraire. Si on fait ça de façon injuste, incohérente, inconséquente, eh bien on s'attire un jugement sur nous-mêmes. C'est Paul qui le dit. Si vous n'êtes pas d'accord, adressez-vous à lui. Lorsque vous serez au ciel, il faut attendre. Pour l'instant, on ne peut pas lui parler, mais voilà. Le respect du corps commence par le pardon. Paul appelle à un examen personnel, non pas pour nous condamner, mais pour nous réconcilier, réconcilier notre cœur avec Dieu et avec les autres. Discerner le corps, ce n'est pas juste reconnaître le pain comme symbole du Christ, c'est aussi reconnaître l'Église comme son corps. Et si on en revient à Romains 14 et 15, 15-7, il est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Accueillez-vous. Vous avez déjà salué votre voisin ou peut-être la personne qui est juste devant ou derrière. Allez, saluez-vous. Accueillez-vous. Et là, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Je ne sais pas si vous vous imaginez l'accueil que Jésus-Christ nous adresse. C'est fort. Et il en rajoute une couche dans la lettre aux Colossiens, ça sera un petit peu plus tard, « Que vos paroles soient toujours agréables et pertinentes. » Bon, c'est le cas. Hein. « Sachez répondre à chacun de la bonne manière. » Waouh. Vous allez encore lire le Nouveau Testament ? Ça, Colossiens 4, ça sera... Oula. Colossiens 4, c'est le 16 septembre, si jamais. Donc, la parole de Dieu nous dit pardonner avant de prendre part à ce repas de communion avec le Seigneur, mais aussi les uns les autres. Aller vers celui qu'on a blessé, refuser de participer au repas du Seigneur si l'on garde rancune, c'est aussi un acte de respect et pas d'hypocrisie lorsqu'on prend la Sainte Cène. Donc pardonner. Ce matin, avant de prendre la Cène, je vous invite juste à pardonner. Si c'est possible de le faire même ce matin, le faire ce matin, pas attendre demain. Et si ce n'est pas possible, de prendre la ferme résolution, de tout faire pour que dans les prochains jours, eh bien, vous puissiez pardonner aussi. Aller vers celui qu'on a blessé. Peut-être vous avez eu des propos qui ne reflètent pas ce que la parole de Dieu nous invite à voir. Allez dans ce sens-là. Et refusez aussi de participer au repas de la Cène si vous choisissez malgré tout de dire « Non, c'est trop grave ce qu'on m'a fait, je ne peux jamais pardonner. » Alors je parle dans des conditions de frères et sœurs dans l'Église, évidemment. Il y a d'autres choses où il faut un processus. Si une personne a été violée, abusée ou d'autres choses, ça c'est... faut pas me faire dire non plus ce que je dis pas, mais dans des relations naturelles, je dirais. Donc en conclusion, vivre la Sainte Cène, c'est comme une déclaration d'amour. La Sainte Cène, ce n'est pas seulement un moment spirituel, c'est un engagement communautaire. Chaque fois qu'on la prend, on affirme qu'on est unis en Christ, qu'on aime en vérité et qu'on marche dans le pardon. C'est aussi un repas d'unité, un repas de respect, un repas d'amour, bien évidemment un repas d'alliance avec le Seigneur, cette nouvelle alliance. Et si nos relations sont brisées, la table de Christ nous appelle à la réconciliation. Réconciliation avec Christ, mais réconciliation aussi les uns avec les autres. Si notre cœur est froid, la coupe nous rappelle le sang du pardon. Et si on se sent indigne, le pain nous dit que Christ a tout payé pour nous, pour qu'on soit un en lui. On ne peut pas mériter, c'est une grâce. Mais cette table de la Sainte Cène nous dit que Christ a déjà tout accompli. Et avant de s'approcher de la table du Seigneur, approchons-nous peut-être d'un frère, d'une sœur, pour libérer le pardon aussi, ou demander pardon. Avant de rompre le pain, rompez aussi l'orgueil. Bien souvent, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est notre orgueil, parce qu'on ne veut pas qu'il soit dit qu'on a capitulé. Avant de boire la coupe, laissez tomber aussi les rancunes. Alors, Paul va dire non. Je ne veux pas que la Sainte Cène soit une table brisée par l'égoïsme. Stop maintenant. Stop cet égoïsme, ces mascarades de religiosité où on va accomplir des trucs. Mais on n'en a que faire de l'ensemble de l'Évangile. Et Paul dit, il rappelle... que la Sainte Cène, c'est un appel à l'unité dans l'amour. La Sainte Cène nous pousse à soigner nos relations. Bien sûr, j'ai parlé des relations avec les autres, mais il y a aussi une relation encore plus essentielle, c'est notre relation avec Dieu lui-même. Il y aurait tellement de choses à dire encore ce matin. C'est sûr, si quelqu'un vit en négligeant Dieu, en s'installant dans le péché, dans l'adultère, dans le mépris volontaire de la parole de Dieu, alors ce repas, il n'est pas pour lui. C'est un appel à être en ordre les uns avec les autres, mais en ordre dans cette dimension-là, les uns avec les autres, mais en ordre aussi avec Jésus, avec le Père. Ça rappelle la croix, le bois qui est dans ce sens-là et qui monte aussi au ciel. Si vous avez les petits trucs mnémotechniques, être en paix avec Dieu, c'est aussi important. Participer à la Cène sans se soucier de sa vie spirituelle, c'est mépriser l'alliance que Dieu a scellée par le sang de Jésus. On aime bien se nourrir de choses saines, de choses qui ont été cultivées, on sait d'où ça vient, on regarde la provenance et autres. On fait beaucoup d'efforts pour bien manger, bien se nourrir. Et faisons autant d'efforts au moins pour nourrir spirituellement, nourrir de la parole de Dieu. Et ce repas devient un moment de grâce si on vient avec un cœur sincère, conscient de ce qu'on fait, désireux, marcher en accord dans cette alliance avec notre Dieu. Et finalement, la scène, ce n'est pas pour les parfaits, mais pour ceux qui se repentent. Si vous attendez d'être parfait pour prendre la scène, je veux dire de mal de personne, mais je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui pourrait prendre la Sainte Seine. Ni moi, bien évidemment. Ce n'est pas pour les orgueilleux, mais c'est pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Alors si ce matin, on est dans cet état d'esprit où on dit « Seigneur, au secours, viens-moi en aide pour que je puisse pardonner, pour que je puisse aimer, pour que je puisse vivre selon ta parole, selon ce qu'on a vu ce matin et bien plus encore dans tous les évangiles », eh bien, ce repas, il est pour vous. Il est pour vous. Et vous connaissez bientôt par cœur ce texte aussi qui nous dit, eh bien oui, la parole de Dieu, elle est inspirée. On l'a vu ce matin, on l'a lu, elle est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité. Et il y a une part de la vérité dans ce qui a été lu ce matin, dans toute la parole de Dieu. Pour nous enseigner la vérité, nous en convaincre. J'espère que vous êtes convaincus par rapport à ce texte d'1 Corinthiens 11, Romains 12 à 16. Pour corriger les erreurs, il y a peut-être des choses à rectifier dans notre vie. Rectifier nos pensées, il y a peut-être des choses à recentrer. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste conforme à la volonté de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Oui, l'Écriture est là. Donc lisez cette Écriture, méditez cette Écriture. Et ce matin, eh bien, on est invité à venir à la table du Seigneur. Cette Sainte Cène, ça ne doit plus être une table brisée par l'égoïsme, mes amis. On l'a entendu, hein. S'il y a des choses qui sont là, je crois qu'on est appelé à régler ou à prendre la décision de régler. Que ce soit un comportement pernicieux, un comportement voilà, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est entre Dieu et nous, mais ça peut être aussi avec tel frère, telle sœur. Un appel à cette unité dans l'amour. Et la Sainte Cène, comme je l'ai dit, eh bien, nous pousse à soigner nos relations. À soigner. Que chacun donc s'examine lui-même. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. J'espère pas dissuader des uns ou des autres de prendre part à ce repas, parce que c'est un repas de grâce. Cet examen de conscience ne doit pas vous mener à ne pas prendre, à part si vous voulez vous entêter dans un chemin qui n'est pas celui que le Seigneur a tracé pour nous, les êtres humains. Un chemin qui n'est pas hors de notre portée, vu qu'il nous rend capables de mener une vie juste, conforme à sa volonté. Un chemin qui est à notre portée, avec son aide. Mais dans la mesure eh bien, où on dit « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux vivre dans le pardon, dans la grâce. » Dans cette communion avec toi, mais dans cette communion aussi avec mes frères et sœurs. C'est possible ce matin, mes amis. Je vous en supplie, faites le bon choix. C'est assez dur de lire que même... On n'aime pas le dire, hein. Souvent on dit « Ah, mais prenez-en tous, voilà. » Mais ce verset 30 d'1 Corinthiens 11 dit « C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et que plusieurs sont morts. » N'aime pas trop, hein. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc là, un petit examen de conscience. On dit oui, Seigneur. On dit oui au Seigneur. Oui à sa parole. Oui au pardon. Oui à la grâce. Là encore, quelque chose qu'on fait dans la plupart des églises, c'est dire à la fin d'un service ou autre le Notre Père. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, Papa Céleste, merci pour cette table de communion, cette table, Seigneur, qui nous rappelle cette nouvelle alliance aussi, cette table qui nous rappelle le pardon, la grâce, qui nous rappelle ton amour, qui nous rappelle aussi, Seigneur, cette nécessité aussi de vivre dans le pardon, dans la grâce, dans l'amour, dans la vérité. Seigneur, à s'attendre les uns aussi aux autres. Eh bien, Seigneur, merci de nous aider à construire ton corps dans l'unité, autour de ta personne. Seigneur, pardon parfois pour l'orgueil qui nous empêche de demander pardon. Pardon pour toutes les fois où on a dit « Ah, je pardonnerai quand il aura fait le premier pas ». Et Seigneur, peut-être ce matin, tu nous appelles, nous, à faire le premier pas. Seigneur, bien merci. Merci pour ces textes, merci pour cette lecture du Nouveau Testament. Merci, Seigneur. Seigneur, parce que c'est un tel enrichissement aussi pour moi, ta parole. Seigneur, où je découvre des choses incroyables, Seigneur. Alors, je l'ai lu des dizaines, des centaines de fois, peut-être, certains textes. Mais Seigneur, merci. Merci aussi parce que cette parole s'est faite chair. Tu es venu sur cette terre. Ton sang a coulé. Ton corps a été livré et crucifié. Mais Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir. Tu as vaincu, tu as triomphé de cette puissance des ténèbres. Et aujourd'hui encore, eh bien, tu nous rends capables de triompher des ténèbres en nous confiant en toi. Au nom de Jésus, amen.